comment le contact s'est fait. Le contact s'est fait avec Arthur Evans, qui est un charmant monsieur, un peu rubicon, aimant bien la vie, adorant le vin français, venant au moins une fois par an en France. Et ça, c'était à la fin de l'année 2009, et il me dit ni une ni deux, mais c'est, vos projets sont vraiment très bien, faudrait qu'on en parle. Justement, l'année prochaine, je viens à Aix-en-Provence, on ne pourrait pas se voir. Je viens voir Roger Vedetto à Aix-en-Provence. Alors on s'est vu à Aix-en-Provence, c'est Roger bien sûr qui a fait l'intermédiaire, qui a joué les go-between, et on a mis en place le partenariat avec Science Fiction Studies. Ça va se passer comment ? Ça va se passer comme ça, la revue française Presse Futurae, n'ayant pas forcément d'emblée un vivier de chercheurs et un vivier d'articles suffisant pour faire 2 numéros par an, hein, c'était ça aussi qui rendait le projet un peu... délicat, un peu hésitant, aura libre accès aux articles de Science Fiction Studies déjà parus pour traduction et publication en français. Il faut savoir que Science Fiction Studies fait payer environ entre 50 et 100 dollars de droits de traduction pour n'importe quelle apparition de ces articles dans une autre publication. C'est donc un beau cadeau. Déjà, le fait de nous donner leurs articles pour traduction en libre accès, si j'ose dire, et sans que ça passe par le comité de lecture, bien entendu. A l'inverse, les articles qu'ils considéreront comme les meilleurs de Res Futurae seront traduits par leurs soins, pour publication en anglais dans Science Fiction Studies. C'est donc un partenariat de traduction croisée qui est intéressant pour eux parce que ben, Arthur Evans est particulièrement conscient que la revue SFS se concentre essentiellement sur des productions en anglais, sur des œuvres en anglais, sur des auteurs anglophones, et puis manque de vision sur les corpus francophones. Et de notre côté, c'est très intéressant parce que ça nous donne les articles de fond qui structurent un peu la recherche internationale sur la science-fiction depuis 1973, qui pour la plupart n'ont jamais été traduits, et bien trouveront leurs lecteurs et leur public une fois qu'ils seront en libre accès et traduits en français. Voilà un peu comment c'est organisé finalement le déclenchement. Ça c'était en 2010, on se donnait 2 ans pour réussir et je suis presque sûre qu'on va tenir le délai parce que je vois pas trop ce qui pourrait nous empêcher là de mettre le numéro 1 en ligne en octobre dernier. Alors vous vous dites peut-être ce numéro 1, de quoi parlera-t-il ? Le principe qu'on a retenu, c'est qu'il y aura donc 2 numéros par an. Les numéros impairs seront consacrés à des grands sujets de fond, disons des grandes synthèses, des sujets généraux. Et les numéros pairs seront plus, se concentreront plus sur une thématique, soit un thème, soit un auteur, soit carrément une œuvre. Il y a des œuvres qui valent peut-être la peine à elles toutes seules d'être étudiées sous plusieurs angles à travers plusieurs articles de fond. Donc le numéro 1 sera évidemment consacré à une sorte d'état de la question, ce que signifie étudier la science-fiction en France aujourd'hui. Il y aura trois articles en français, donc de notre cru, et 4 articles traduits de Science Fiction Studies, qui a consacré en 1999 2 de ses numéros à justement une histoire de la critique de science-fiction depuis Kepler jusqu'à 1999. Ces 4 articles sont en quelque sorte une espèce de somme de tous ceux qui ont étudié la science-fiction, qui ont produit des théories dessus et qui en ont proposé des hypothèses explicatives et historiques. Donc on les a traduits. Et ils constitueront un petit peu le cœur de ce premier numéro. L'entretien sera avec Monsieur Klein, bien sûr, et puis il y aura un compte-rendu sur un ouvrage universitaire traitant de pas seulement de la science-fiction, mais traitant en particulier de la science-fiction dans le cadre d'une théorie générale de la littérature. Et justement, ça vaut la peine de montrer quelle est la place de la science-fiction dans les études littéraires aujourd'hui. Quant au numéro 2, qui sera donc, si vous avez bien suivi, mis en ligne au printemps 2013, le numéro 2 sera un retour sur un événement qui a beaucoup compté dans la réussite de tous ces projets-là, qui s'appelait le mois de la science-fiction à l'École normale supérieure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Les conférences ont été vidéo conférences, des tables rondes, des expos. Ça a été une occasion de rencontre et de production intellectuelle tout à fait inégalée jusqu'à présent. Alors on a fait une sélection de 1, 2, 3, 4, 5 des meilleurs articles, enfin, disons de ceux qui donnaient l'image la plus nette, hein, et la plus ferme des idées de leurs auteurs. Un article sur le style de la science-fiction, un article sur la théorie du temps dans la science-fiction, un article sur le rapport de la science-fiction et de la science, et un article sur le rapport de la science-fiction et de la culture populaire en général. Les deux articles traduits de Science Fiction Studies seront un article de Roger Lockhurst qui s'appelle les mille et une morts de la science-fiction, qui a reçu plusieurs prix académiques depuis sa parution en 1995. Et un article de Joanna Russ qui est disparu récemment, qui est considéré comme un des articles les plus importants sur le rapport de la science-fiction et du féminisme, et qui est une forme d'hommage en même temps, hein, à cet auteur. L'entretien, eh ben, il a été mené avec Hugo Bellagamba et Éric Pichol aux Journées de Pérès, pas cette année, mais l'année dernière. Et enfin, le compte-rendu sera consacré au livre que Arnaud Jullier vient de consacrer l'année dernière à Jean Rey, et qui a reçu le Grand Prix d'Imagine. Voilà ce que je pouvais vous présenter en exclusivité et puis en règle générale. Je suis bien entendu là pour répondre à vos questions et puis éventuellement aborder, là je vous ai présenté le côté clair, hein. Il y a un côté obscur aussi à une revue universitaire sur la science-fiction, si vous avez envie qu'on en parle, bien entendu. Au total, ils ont rajouté mon livre dans la liste. Et il m'a même promis qu'il y aurait un compte-rendu 6 ans après. Il est paru en 2006 quand même, mon livre, c'est pour ça. J'étais un peu gros. Non, mais c'était complètement opportuniste. Quand vous faites votre tour de France pour aller faire des auditions devant les mandarins, pour faire mousser un petit peu. Et là, j'avais envie de pouvoir montrer que mon livre était lu même aux États-Unis. Donc, c'est fait. Alors, tout le monde a le droit de proposer des articles, hein. En fait, les revues universitaires sont pas tant sélectives au moment de la production qu'au moment de la réception. C'est vraiment l'évaluation qui est extrêmement sévère. Pardon ? Bah, on essaye de... Bon, il est clair quand même que chaque article, on demande à chaque auteur, par exemple, de, en même temps que sa proposition ou que son papier ou que son projet, d'envoyer une espèce de fiche d'identité, son nom, son prénom, son rattachement institutionnel et une courte biographie et un résumé du projet. C'est pas tellement pour sélectionner ceux qui ont le pédigré et ceux qui n'ont pas. C'est d'une part parce que si on retient le projet, de toute façon, il faut qu'il y ait un petit topo biographique pour chaque auteur, hein, dans la revue. Et puis aussi un petit peu pour évaluer l'origine, le d'où ça parle, comme on disait dans les années 70. Mais a priori, on ne fera pas de sélection sur les gens qui proposent. Voilà. C'est pour ça qu'on anonyme d'ailleurs. Hein. Il est hors de question que les évaluateurs aient déjà une idée et à partir simplement du rattachement institutionnel. Ça, il n'y a que 3 personnes en principe qui le sont. Alors la question c'est, c'est une question déjà très spécialisée, hein, c'est une question pointue. Raymond Millésime demande s'il y a une volonté dans cette revue de ne pas traiter de la science-fiction dans le cadre des études qui existent déjà et qui existent avec une santé forte, hein, oui, sur le vaste domaine des littératures populaires. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié de dire un petit truc en présentant la revue, c'est que c'est précisément le fait d'être recruté à Limoges, dans ce centre qui s'intitule Centre de recherche sur les littératures populaires et les cultures médiatiques, CRLPCM. Il y a plus de lettres dans ce cycle que de membres dans le groupe, d'ailleurs, il faut vraiment qu'on change. C'est un centre dirigé par Jacques Migosi, qui est un type très sympa, qui est un universitaire de talent, qui est un vrai homme de gauche, disons défenseur de la culture collective et populaire. Bref, il y avait toutes les raisons de promouvoir la science-fiction dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, j'ai été recrutée pour ça. Mais, alors il y a deux mais en fait. Hein. D'abord, le côté littérature populaire, c'est un angle sous lequel, à mon avis, toute la science-fiction ne rentre pas et qui biaise clairement les choses qu'on peut avoir à échanger sur le rapport à la science, sur le rapport à l'écriture, le rapport à un certain nombre de choses. D'autre part, en fait, il n'y a pas d'organe, il n'y a pas de revue académique de bonne, qui soit en bonne santé à l'heure actuelle sur les littératures populaires. Il y en a une, elle a été fondée au début des années 2000, son premier numéro date de 2001, elle s'appelle Belphégor. Elle est en ligne aussi, et elle est maintenue pour l'instant par l'Université de Dalhousie au Nouveau-Brunswick, au Canada, par quelqu'un qui s'appelle Vittorio Frigerio et qui a fait du bon travail au début des années 2000, mais qui, à l'heure actuelle, est une revue qui n'est pas classée, et, ou qui n'est classée que B ou C, parce que justement son protocole d'évaluation a faibli avec le temps, ses comités ne sont plus à jour, bref, il y a un chantier de rénovation de Belphégor. Puis en fait, moi il me semble que passer par la littérature populaire, disons passer par ce biais-là, c'est encore une fois diluer un peu la visibilité des études sur la science-fiction. Donc ma réponse est celle-là. Oui, alors il y a l'association du Rocambole aussi, oui, c'est l'association des amis du roman populaire ou quelque chose comme ça. Voilà, alors c'est typiquement, alors il y a également les cahiers du CERLI, le CERLI qui est le Centre d'études et de recherche sur les littératures de l'imaginaire, c'est une association ouverte à tous, mais où se retrouvent pratiquement tous les universitaires traitant de science-fiction, de fantasy, de fantastique. Le président de l'association CERLI, d'ailleurs, fait partie du, comme il est professeur de l'université, il fait partie du comité scientifique de la future revue. Pour les amis pour le Rocambole, c'était différent. C'est vraiment une revue qui publie des études, de bonne qualité, mais qui ne dispose pas d'un protocole public d'évaluation. Et en vérité, finalement, la question, elle s'est posée surtout comme ça. Pour rendre visible la science-fiction académique, il faut passer par les méthodes académiques, les protocoles partagés, et puis les choses qui vont. Presque du rail. Avec un comité scientifique composé déjà de spécialistes d'autres disciplines que littéraires. On a essentiellement des littéraires, il faut bien le reconnaître, des littéraires soit de littérature comparée, soit de littérature française, soit de littérature anglophone, disons. La discipline universitaire, c'est ce qui correspond à la 12e section du CNU, des universités en France, et donc c'est toutes les littératures, toutes les productions en anglais. Mais on a aussi des spécialistes d'histoire de la culture, des spécialistes d'information communication, des spécialistes d'histoire des médias et des spécialistes d'histoire du cinéma. D'ailleurs, j'aurais eu très envie, par exemple, que Daniel Tron nous rejoigne, qui a soutenu il y a 2 ans une thèse d'histoire du cinéma de science-fiction. Mais voilà, il n'a pas répondu pour l'instant. Peut-être que ça le convaincra. En tout cas, c'est l'une des raisons du choix en ligne. Le format en ligne nous permettra, à moindre frais, de travailler sur des exemples texte, mais aussi sur des exemples images, voire des exemples vidéo. C'est ce que permet la plateforme du CNRS sur laquelle on a sollicité l'hébergement. Ah, certainement, l'idée c'est pas du tout de ne pas étudier la culture populaire ou les productions médiatiques ou les productions des industries culturelles. Au contraire, je dirais. Hein. Mais l'idée est, le centre de Jacques Migosi s'occupe de ces industries culturelles en considérant, voilà, leur porte d'entrée dans le phénomène, c'est le côté industriel. Je dirais que Res Futurae souhaite ouvrir une porte d'entrée différente qui va aboutir à un certain nombre d'objets communs. La porte d'entrée de Res Futurae, c'est la science-fiction. La science-fiction comme genre, quel que soit l'état des discussions là-dessus, d'ailleurs. Hein, il y aura probablement un numéro impair à venir, c'est une réflexion sur la notion de genre. Hein, sur la notion de genre en science-fiction, il faudra discuter de ça. Mais notre porte d'entrée est différente. Ça ne veut pas du tout dire qu'on les étudiera pas. Voilà. Au contraire, on... Simplement, il est question de choisir une problématique différente. La problématique littérature populaire, elle est pertinente pour la science-fiction, elle est même sans doute indispensable. Mais ce n'est pas la seule. Et disons que dans ce cadre-là, nous on va proposer une approche qui croise les mêmes objets, mais à partir de portes d'entrée différentes.
Est-ce qu'il y aura quelque part une sorte de déclaration un peu préliminaire de quel est le...
Je vais répondre en deux temps. Bien sûr, nous ferons une déclaration d'intention et elle sera lisible en ligne. D'ailleurs, j'ai fait une copie d'écran, vous verrez sur les petites images là. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait une copie d'écran d'une revue amie qui s'appelle Comicalité et qui est une revue récente d'études sur la bande dessinée pour que vous voyez un petit peu et que si vous allez voir, vous voyez un peu à quoi ressemblera la revue. La revue publiera, donc elle sera accessible en ligne et dans le menu gauche, vous aurez en permanence accès notamment aux consignes données aux auteurs, au processus d'évaluation tel qu'explicité, et puis à la liste des comités, bien entendu, et aux éditoriaux. Donc bien entendu, on affichera nos convictions, on affichera notre point de départ, et on affichera notre périmètre de travail. Mais la deuxième chose que je voudrais ajouter à cette réponse, hein, c'est que les revues Extrapolation, Foundation et Science Fiction Studies ont plus de 40 ans. Et ces tendances qu'on observe dans ces revues-là sont le résultat d'une histoire longue. Il est assez difficile de savoir ce que la revue Res Futurae va avoir comme tendance. Il est clair que le comité scientifique désigné, il va avoir un petit peu comme rôle de veiller à ce que l'équilibre soit respecté entre les différents pôles littéraires, entre les différents supports de la science-fiction, cinéma, bande dessinée, littérature, jeux vidéo, voire objets culturels, ou jouets. Voilà, c'est peut-être dans 5 ans qu'on pourra répondre à cette question. Mais si la littérature populaire, la science-fiction industrielle, si je peux le dire ça comme ça, a complètement disparu de nos objets d'études, je considérerais personnellement que c'est un échec scientifique. Parce qu'il me semble qu'il faut, il faut travailler sur l'ensemble du secteur.
Pardon ?
Zéro euro. Oui, nous avons fait le choix de l'open access. Oui, on a fait le choix de l'open access. On n'a pas de subvention, mais a priori, ça ne nous coûte pas grand-chose. La plupart de ceux qui travaillent pour l'ARBU sont déjà maîtres de conférences ou professeurs. C'est vos impôts qui les font vivre tous les mois et tous les ans. Et par conséquent, on n'a pas besoin de gagner de l'argent avec cette revue. Le Cléo CNRS est une plateforme publique. Alors voilà, le coût à payer, c'est les délais. C'est les délais d'évaluation, c'est les délais de fabrication, parce qu'on est, on est peu et on travaille. Mais on a fait le choix de l'open access complet, pas de barrière mobile. Science Fiction Studies, en revanche, a une barrière mobile. Hein. C'est une revue qui ne met en ligne ses numéros qu'au bout de, je ne sais plus, 3 ans ou 6 ans ou quelque chose comme ça. Et par principe, systématiquement, tous ceux qui sont épuisés. Science Fiction Studies met en ligne, dès qu'il est épuisé, dès qu'ils sont épuisés, tous ces numéros. Oui, alors le membre de Rempart qui pose la question a pu lire les idées que je transmettais il y a un an et demi ou deux sur... oui, voilà. C'est vrai que je ne vous cacherai pas qu'en venant ici, je me disais, bon, pourvu que je ne me fasse pas allumer comme Abelin en 2009, parce que on a eu un petit... C'était sympa en même temps, hein. Il y a eu une discussion avec Elisabeth Bonnardour où en gros, les études littéraires universitaires, c'était que de la foutaise et que... Bon, l'argumentation était compliquée. Moi, je continue de penser que, d'abord, c'est possible, parce que on croise le fer, mais ensuite, on peut prendre un verre et aller plus loin. Et puis, secondement, que ça nous plaise ou non, j'ai l'impression que les études sur la science-fiction, elles sont structurées comme ça. Et elles sont structurées entre, un peuple de critiques qui ne sont pas des universitaires, et un autre peuple de critiques qui sont des universitaires. Et que la vraie vérité de cette culture, c'est la cohabitation des deux. Cohabitation peut-être difficile, mais... Et donc traiter de cette vérité, c'est aussi venir faire un peu la VRP comme je suis en train de le faire, mais je trouve que finalement, cette fois-ci, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Vous verrez dans le numéro 1 un article de Simon Bréant qui essaye justement de réfléchir à cette question. Et de réfléchir à ce qu'il appelait la critique érudite, la critique d'érudition de science-fiction en France, pour se demander un petit peu, bah déjà faire le bilan de ce que cette critique d'érudition a produit, ce sur quoi il faut nécessairement s'appuyer pour faire des études sur la science-fiction à l'heure actuelle. La revue Science Fiction Studies avait fait la même chose d'ailleurs. En 99, l'un des 4 articles d'histoire de la critique de science-fiction de 99 dans Science Fiction Studies est consacré à ce que Hassler a appelé, Gary Bessel a appelé ça la critique des fans. Ce qu'il a appelé la critique des fans est, à ses yeux, l'un des 4 piliers de la critique de science-fiction. Donc oui, Raymond, il y a clairement une sorte de difficulté, et en fait, ma réponse tout à l'heure à Joseph au sujet du rocambole contenait un tout petit peu aussi ce sous-entendu. Ben, Jacques Ligozzi a fait partie des fondateurs du rocambole. Et puis, il n'y est plus. Voilà. Hein, il y a eu une crise. Voilà. Il y a eu une crise. Bah ouais. et Belphégor de l'autre. Bon, l'idée, c'est pas forcément d'espérer que ces crises disparaissent, parce que moi, j'ai l'impression qu'elles sont productives. Après, un peu de diversité, je crois, dans le domaine de la critique, ne nuit pas. Il faut aussi différents protocoles. Oui, on va faire de la pub, vraiment, pas de problème. Bon, écoutez, j'espère que...